tous les mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, donc voici l'heure des coups au cœur. Aujourd'hui, le coup au cœur qu'on a choisi, c'est « Traîne sa vanne » de Guillaume Jean, qui a été publié aux éditions Interval en 2014. Je vous en parle parce que dernièrement, nous l'avons reçu à Littéra Guillaume Jean pour nous parler justement de ce livre. Simone, qui fait partie aussi de Littéra, vous avez déjà présenté ce livre « Traîne sa vanne ». Mais comme on a reçu l'auteur, je me suis dit que c'était bien peut-être d'en faire un petit peu plus. Voilà. Guillaume Jean, donc, est né en 1973. Il est reporter dans la presse magazine française. Alors, un de ses copains dit de lui, « Son métier lui a permis d'être chercheur d'or en Guyane, de partager le quotidien des jeunes Irakiens sous l'empire de Saddam Hussein, de slalomer entre les mines à Kaboul, de séjourner dans le charmant village d'Al-Qaïda au Yémen, de suivre les enseignements d'un gourou bitérois dans son ashram en Inde, d'infiltrer une filière de concubines en Chine, de jouer au ballon avec l'équipe de foot de Grozny ou au billard avec des gangsters anglais. » Voilà, ça vous dit beaucoup de choses sur le personnage. On lui a posé la question, d'ailleurs, est-ce que tout ça est vrai ? Il nous a dit, mais oui, bien sûr, tout ça est vrai. Hein ? C'est vraiment un baroudeur, un aventurier qui part tout le temps pour explorer le monde. Maintenant, il vit à Paris parce qu'il a épousé une Congolaise avec qui il a deux enfants. Alors, son œuvre, en 2009, il a publié « Le Baobab de Stanley ». C'est un livre encore sur l'Afrique, parce qu'il est vraiment amoureux de l'Afrique, cet homme-là. Puis en 2011, Le Cartographe, son premier roman, qui est paru aux éditions Interval. Et dans son troisième livre, qui est donc Traîne sa vanne, il retourne en Afrique, et cette fois-ci sur les traces de Livingstone. On va en parler un petit peu. Le titre exact du livre, c'est Traîne sa vanne, 20 jours avec David Livingstone. Alors c'est un livre écrit à la première personne et c'est à n'en pas douter le récit d'un journaliste écrivain voyageur amoureux de l'Afrique. Et c'est d'une façon bien particulière qu'il va nous raconter l'Afrique. D'un chapitre à l'autre, on passe du présent au passé. Le présent, c'est son envie de voyager et c'est ce qu'il a fait aux quatre coins de la planète. Et là, c'est en Afrique. J'ai envie de voyager, dit-il, comme on a envie de faire l'amour. Mais avec le désir d'Afrique, il y a dans ce livre quelque chose de plus, parce qu'il a rencontré Bélange, justement, une jeune Congolaise dont il est tombé amoureux, d'où son désir de revenir au Congo pour la retrouver et l'épouser, un mariage qui se passera chez les Pygmées, il nous le raconte dans son livre. Voilà, donc, on passe continuellement de l'amour pour une femme africaine, Bélange, et son amour pour l'Afrique. Les deux se confondent, bien entendu. Alors dans le livre, avec Bélange, il décide de partir à la rencontre des Pygmées. Il nous dit des Pygmées, ce sont des hommes qui connaissent la forêt comme leur étui pénien et qui assistent tous les jours à l'enterrement de leur culture en se doutant bien où cela les mènera. Ils ne sont pas idiots. Alors Bélange et Guillaume vont s'enfoncer dans la forêt avec leur guide Joël, un jeune étudiant congolais qui doit travailler pour nourrir sa famille. C'est une belle page sur l'Afrique, le paysage africain. Je vous en lis une page. Notre colonne modeste et géniale s'enfonce dans la pénombre. Nous parlons un peu avec Joël pour faire connaissance. Il prépare un diplôme de juriste en sciences sociales, mais il n'a guère le temps d'étudier puisqu'il doit travailler au champ pour nourrir sa famille. Et même avec ça, il lui manque 40 000 francs congolais, l'équivalent de 30 dollars américains pour payer son droit d'examen. Sans cette taxe, ce n'est pas la peine de compter sur l'obtention du diplôme. Quand nous traversons une clairière, les rayons du soleil tombent comme des fûts de nitroglycérine sur nos têtes, ce qui nous cloue le bec. Nous ne faisons plus que marcher, 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 toujours au même rythme. Nous pénétrons par petits bouts dans les entrailles de cette nef enchantée, et j'ai à peine le temps de m'émerveiller devant les troncs qui s'élancent jusqu'au ciel. Tout est vert. La lumière est tamisée par les branches et la végétation paraît de plus en plus démesurée. Les feuilles des mauvaises herbes sont grandes comme des lits king-size américains. Bientôt, nous entendrons les singes s'enfuir à notre approche. De loin en loin, les oiseaux colorés inventent des ritournelles lancinantes. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Mais ce n'est toujours pas le temps de la contemplation. Nous montons et nous descendons, nous butons sur des racines, nous tournons à droite, nous tournons à gauche. Parfois, Joël taille une liane à la machette ou un groupe de plantes sans gêne venu coloniser notre chemin. Nous enjambons le cadavre d'un arbre mort de vieillesse, affalé au milieu du sentier. La pourriture et les termites lèveront patiemment son corps, ça leur prendra 2 ans. Quelques libellules aux ailes d'écailles transparentes nous escortent sans un mot jusqu'aux limites de leur territoire. Ici, le sol est jonché de feuilles sèches qui coiffent d'autres univers que le nôtre, ceux des milliers de scarabées, de coléoptères, d'orthoptères, de lucanes, de chrysomèles, de myriapodes, attentifs à rien d'autre que leur survie. Dans un virage, nous croisons une colonne de fourmis. Joël lance l'alerte, il faut les enjamber en levant haut les pieds. Celles qui arriveront à grimper sur nos tongs planteront leurs mandibules acérées dans nos mollets. On raconte qu'elles nettoient la dépouille d'une antilope en une journée. Nous les dégommons d'une simple pichenette, car nous n'avons peur de rien et nous reprenons notre rythme. D'autres insectes mystérieux lancent leurs signaux sonores comme des sagaies qui fuseraient à travers la touffeur de la forêt. Il est 9 heures, nous avons parcouru 10 kilomètres. Leur voyage, c'est à peu près 120-130 kilomètres. Alors, ce livre aussi, donc il est fait du présent, mais il est fait aussi du passé. Guillaume rappelle certaines anecdotes assez intéressantes qu'il a vécues, des aventures pour le moins rocambolesques. Ici, par exemple, c'est un voyage dans un bus-taxi. Cette fois, c'est sûr, nous sommes partis. J'essaie de me caler dans le fond de mon siège tordu à la recherche d'une position préférable pour la longue route qui nous attend. Mais notre conducteur s'arrête 4 minutes plus tard à la première station-service. Il aurait pu faire son plein avant. Le commis receveur, qui m'a entendu bougonner, nous informe que ce n'est pas le plein qu'on vient faire, mais des provisions de gasoil pour la ville de Kitwit, le terminus, et qu'il va falloir se serrer davantage. En 15 minutes, la camionnette se transforme en camion-citerne et le commis continue d'ajouter des bidons partout où il peut. Nous avons 3 gros jerrycans sous nos pieds. Nous allons voyager les jambes en l'air. La nuit est déjà épaisse quand le chauffeur, un parfait imbécile, reprend le volant. Il allume une cigarette et démarre dans un fracas d'explosions nucléaires. Un seul phare fonctionne, il faut zigzaguer sur la route pour avoir une vision globale. Éviter les nids de poules, les chèvres, les véhicules qui roulent sans lumière et les piétons téméraires. Les effluves d'essence nous rendent pâles. Le chauffeur allume une nouvelle cigarette, ce qui crée un suspense intéressant. Je guette ses cendres, ses allumettes et les mégots qu'il jette n'importe où. Je me dis que nous avons environ 2 chances sur 3 pour que la camionnette s'enflamme. J'ai bien repéré les potentiels issues de sécurité. Si l'incendie se déclare, nous n'avons aucune chance d'en sortir vivants. Bing ! 2 pattes arrière claquent contre la vitre du côté de Bélange. Un passager a attaché son chien sur le toit avec les autres bagages. L'animal a dû glisser, il est pendu dans le vide et hurle de frayeur. Le chauffeur imbécile s'arrête de mauvaise grâce. Le maître du chien monte vite sur le toit pour le délivrer, le réinstaller plus sûrement. 15 minutes plus tard, alors que les premières gouttes de pluie commencent à cingler, le chien dérape à nouveau et ses pattes paniquées reviennent griffer la carrosserie. « Cette fois, je ne m'arrête pas !» s'énerve le conducteur, seul maître à bord. Et le chien continue de hurler à mort, ballotté par la vitesse et les chaos de la route. puisque c'est comme ça, le passager passe la tête par le hublot arrière, puis le haut du corps, il lance une main et s'accroche à la barre en métal de la galerie comme l'aurait fait James Bond. À 50 km/h sur une route défoncée, il arrive à grimper sur le toit et à rattacher son compagnon au milieu de la gigantesque cargaison qui oscille à chaque virage. La route n'est pas fiable, elle est craquelée, percée, défoncée, sournoisement sinueuse, et il fait nuit noire. Dire que c'est la nationale numéro 1, soupire Bélange. Ça nous laisse imaginer l'état des autres voies de circulation. Comme il est impossible de dormir, Bélange me demande de lui décrire ce que j'ai vu du monde. Elle veut que je lui raconte l'Inde, le pays des tigres et des fakirs. Mes exploits réussissent à l'assommer malgré toutes les secousses de la route. De l'art d'ennuyer tout le monde en racontant ses voyages. Elle n'écoute plus, elle s'est endormie. L'aube arrive en sourdine et le chauffeur qui veut rentabiliser son trajet s'arrête chaque fois qu'il le peut pour faire monter de nouveaux passagers, des lève-tôt qui se sont postés devant chez eux au cas où. On s'arrête toutes les 8 minutes, quelques nouveaux corps viennent s'empiler témérairement. Ça pousse un peu, beaucoup. Je ne proteste pas, toute ma fascination pour mon amour naissant. Du reste, personne ne proteste. Tout le monde accepte son sort docilement. C'est parce que les Congolais sont des ignorants, estime Bélange, qui s'est enfin réveillé. Ils ne disent rien quand ils sont coincés dans les embouteillages pendant 3 heures, quand l'électricité est coupée 1 semaine sur 2, ou quand ils sont serrés dans un bus de la mort comme celui-ci. Ils ne savent rien, alors ils s'accommodent de tout. Les gens s'en tiennent à la volonté de Dieu, ils disent que c'est lui qui décide tout. Je lui réponds qu'en France aussi, on est résigné. On accepte que nos rivières soient polluées pour pouvoir continuer à manger du jambon pas cher. Ou que nos enfants attrapent des bronchites à cause de l'air des grandes villes, polluées par nos voitures et par nos scooters. Un pasteur bedonnant qui vient de prendre place à côté de nous sur 2 jerrycans prêts à exploser sous son poids, nous entend parler et se permet d'intervenir. « Ah, mais les Congolais n'ont pas toujours été comme ça. Nous nous sommes battus pour obtenir notre indépendance. » Il y a eu plus d'une révolte violente contre les colonisateurs. Tenez, à Kikwit, ils avaient découpé un fonctionnaire à la machette. Seulement, par la suite, les Belges nous ont matés sévèrement. Ça nous a traumatisés. Des traînées d'essence s'écoulent sur le plancher à chaque virage. Les bouchons des bidons commencent à se suinter. Le chauffeur, qui ignore la fatigue, allume sa 40e cigarette avec le mégot de la 39e. Voilà des aventures rocambolesques qu'ils ont vécues. Guillaume et Bélange. Il revient sur le passé du Congo, le passé post-colonial, une histoire terrible d'un pays sur lequel se sont abattues de terribles catastrophes. Il y a eu bien sûr la traite des Noirs à la fin du 19e, l'exploitation du caoutchouc qui en a fait un objet de convoitise pour les explorateurs européens, je dirais, et en particulier pour le roi belge Léopold II, qui a exploité ce pays et l'a véritablement pillé avec des méthodes génocidaires, puisqu'on parle de millions de morts à la fin du 19e, début 20e siècle. Et puis pour finir, de 1965 à 1995, le Congo a eu un des pires dictateurs que l'Afrique ait connu, Mobutu, qui a fait du Congo le Zaïre, pays qu'il a véritablement plongé dans un horrible chaos. Guillaume Jean revient aussi donc sur le passé en nous racontant l'épopée de David Livingstone, ce missionnaire explorateur écossais qui a vécu au XIXe siècle et a passé une grande partie de sa vie à explorer le continent africain. Guillaume consacre 1 chapitre sur 2 à nous raconter l'épopée à la fois grandiose et pathétique de celui que Guillaume compare au Don Quichotte de Cervantes. Il en fait le portrait dès la première page dans une sorte de prologue. Ce mois de février 1844, David Livingstone a 31 ans. Le missionnaire écossais est arrivé en Afrique australe 3 années plus tôt, peu après avoir obtenu son diplôme de médecine et s'être fait ordonner pasteur. Il est à la recherche d'une terre promise où il annoncera l'évangile, où il apportera les lumières du progrès. L'incorrigible vagabond sillonnera cette partie du continent jusqu'à sa mort, parcourant 40 ou 50 000 kilomètres à pied le plus souvent. Il s'égarera dans le désert du Kalahari. Il croira être le premier à découvrir les majestueuses chutes Victoria ou à descendre le cours du Zambèze. Avec le temps, le soleil, la solitude, avec la fatigue, avec l'ennui, les fièvres, l'orgueil, le chagrin, avec l'émerveillement, le missionnaire aventurier se transformera en farfelu de la géographie approximative, en clochard céleste qui espère pourfendre la traître négrière avec ses sermons. Enfin, en traîne savane, gagnée d'une affection sincère et profonde pour l'Afrique et les Africains. Une attitude diablement progressiste à l'époque victorienne, quand le nègre était plus souvent considéré comme un sauvage sans importance. Le bon vieux docteur se fait happer par le continent noir au point de perdre contact avec sa famille, avec ses derniers amis et avec le monde. Mais toujours, il se balade dans la savane à la recherche de ses chimères, à la poursuite de son bonheur, de son malheur peut-être. D'ailleurs, Guillaume Jean le compare souvent au personnage de Cervantes, Don Quichotte. David Livingstone, donc, qui est peu connu en France, mais qui est très connu en Angleterre, avait pour l'Afrique vraiment une telle passion qu'il n'a jamais cessé de parcourir ce continent, malgré les conditions terribles qui le laissent souvent dans un grand dénuement. Voilà, donc c'est un écrivain, Guillaume Jean est un écrivain, on peut dire, voyageur, baroudeur, aventurier, qui nous parle beaucoup de l'Afrique, du Congo plus particulièrement, dans un récit qu'on peut qualifier de double déclaration d'amour à l'Afrique et à celle qu'il aime, Bélange, devenue sa femme, donc chez les Pygmées. Ils se sont mariés chez les Pygmées et avec qui il vit donc à Paris avec leurs deux enfants. Voilà, un très beau livre d'aventure, Traîne savane, de Guillaume Jean, qui a été publié en poche. Merci, à bientôt. Thought I've done so much wrong, but please give me strength to care.